Bonjour à toutes et à tous. Merci. Les événements ici-bas nous feraient presque oublier que dans quelques semaines, dans quelques jours, sans pour autant être très tradition, on va célébrer la Pâque, n'est-ce pas? Ça passerait sous silence parce que il n'y a pas un jour où on n'ouvre pas la télévision ou la radio et puis c'est pas l'Ukraine, c'est plus le Covid. Enfin, ça va revenir, rassurez-vous. Mais s'il fallait donner un titre à ce message, je dirais « En route pour la maison du Père ». Dit comme un mot d'ordre, mais aussi comme un encouragement pour nous. N'oublions pas que nous sommes en route pour la maison du Père et que les situations, les événements d'ici-bas ne devraient en aucun cas nous perturber. N'est-ce pas? Allô? Les choses visibles sont passagères, mais l'Éternel dit que les choses invisibles sont éternelles. Et c'est ça la foi. Nous devons nous en tenir à cela. Jésus est en route pour Jérusalem. Il a entamé sa dernière semaine et il tient à rassurer ses disciples autour de lui et nous aussi avec, parce qu'il sait qu'après son départ, ses détracteurs vont leur mener la vie dure. Je vous invite à lire dans votre livre, Bible, pardon, si vous l'avez emmené, l'Évangile de Jean, chapitre 14, un texte que vous connaissez bien. Je ne traiterai pas tout le passage qu'on va lire, mais bon, vous allez retenir l'essentiel. Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1, j'aime la version de la Colombe. Il est dit que votre cœur ne se trouble point. C'est déjà encourageant, Esther. Pas de panique. Il y a-t-il une chose peut-être que qui peut nous troubler ici-bas, voire plusieurs choses, on dirait oui. Mais Jésus commence en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Et Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous donne, que je vous dis aujourd'hui, ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez à cause de ses œuvres ou des œuvres que je fais. Jusque-là, parce que on ne traitera pas tout ce texte. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi Jésus trouve-t-il des raisons d'encourager ses disciples? Et pourquoi, un bon leader qu'il est, il veut les rassurer? Parce qu'il faut plus les rassurer ici qu'autre chose, de les mettre en confiance. Vous savez, quand la peur nous envahit, on a beau lui dire, t'inquiète, ça va bien se passer, pas de panique. Allez dire ça à Esther. Vous voyez quelqu'un de cher s'en aller entre vos mains. Il dit, pas de panique, reste gentil. C'est pas évident parce que la peur nous envahit, nous habite tellement que rien n'y fait. Et Jésus sait de quoi il parle. Par exemple, si vous allez au chapitre 11 de Jean devant la tombe de son ami Lazare, La Bible dit, Jésus frémit et il fut troublé face à la mort ou face à l'incompréhension du peuple en face de lui, mais ça c'est l'interprétation qu'on peut donner. Au chapitre 12, toujours de Jean, verset 27, Jésus, sentant sa mort prochaine, dit, maintenant mon âme est troublée. Et c'est lui qui dit que votre cœur ne se trouble point. Pardon. Face à l'imprévisible, face à la mort, je ne vais pas parler de la mort aujourd'hui, hein, mais quelqu'un a dit que la mort est mal élevée. La mort vient et vous prend par les deux pieds, comme ça vous ne pouvez plus courir. Mais quelqu'un d'autre a dit que la mort, c'est la dislocation de l'âme et du corps. Tu es décomposé et tu... C'est quelque chose de terrible et la Bible parle de la mort comme un ennemi. On reviendra peut-être un jour, mais le corps, le cœur, l'âme, les entrailles sont bouleversées, sont nouées. On voit le stress s'intensifier, on a des sueurs froides, on est inquiet, on s'interroge et c'est normal. C'est normal parce qu'on est humain. Mais Jésus ne s'inquiète pas pour lui, il s'inquiète pour les autres en face. Ses disciples, ses amis, il les a appelés ses amis. Et il sait ce qui va se passer et d'ailleurs, lui-même il dira plus tard, personne ne m'ôte la vie. Pas de panique pour moi, ne vous inquiétez pas, j'offre ma vie. Je la donne en cadeau. Donc pas de panique, mais il s'inquiète pour ses amis parce que trois fois déjà, il leur a dit, il va être arrêté à Jérusalem, il va souffrir, il va mourir. Mais les disciples n'ont rien compris parce qu'ils n'ont pas écouté. C'est un peu comme nous aujourd'hui, on n'est rien à comprendre, hein? N'est-ce pas? Et parfois on va jusqu'à nous dire, tu veux quoi? Tu veux un schéma? T'as pas compris? Jean chapitre 13, verset 21, juste avant notre texte. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration, vérité en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils ont entendu. Ils ont posé des questions. Mais c'est pas comme ça qu'ils entrevoient la situation. Et ce que les disciples ont plutôt en perspective, c'est une écrasante victoire de Jésus aux élections. Dans un mois, il y a les élections. Jésus sera couronné roi à Jérusalem, et là, ils seront champions. Parce que c'est leur leader qui vont porter vers le haut. Et ils estiment que, à ce moment-là, les Romains, les Juifs malhonnêtes seront dehors. Et Jésus va régner. Mais c'est pas de ça que Jésus parle. Jésus parle de sa mort prochaine, de sa propre mort. Et la perspective de voir ses disciples livrés à eux-mêmes au sein d'un monde hostile, méchant. Et nous le sommes, mes amis, n'est-ce pas? Nous sommes méchants ou pas? Quelqu'un m'a dit une fois, frère, gratte un tout petit peu et tu verras qui nous sommes. C'est la peau évangélique qu'on a. Et par endroit, c'est vrai. Parce qu'au fond de nous, nous sommes prêts à faire le bien, mais nous sommes aussi prêts à faire le mal parce que nous sommes humains. Seul Jésus transforme la vie par son Esprit Saint. Et voir ses disciples en prise avec ce monde hostile, méchant, les voir pire, abandonner la foi qu'ils ont un temps soit peu mis en Jésus et en Dieu, dans un monde aujourd'hui qui n'a ni Dieu ni maître, ce sont des raisons suffisantes pour dire aux disciples, pas de panique, Jésus est là. Et aujourd'hui, quand on regarde notre marche chrétienne, beaucoup ont profité du COVID pour se faire la belle. Je dis ça comme ça. Mais c'est un appel à la vigilance. Et à travers ce texte, Jésus laisse plusieurs appels. Un appel à la vigilance pour nous aujourd'hui. Veille sur toi-même et veille sur ce que tu fais. Et ma question est, où tu en es avec le Seigneur avec ça? Où tu en es? À quelle distance tu es avec le Seigneur? Quand les événements semblent nous échapper, qu'on se sent perdu tous ici, nous sommes passés par des examens. On est devant une feuille blanche, un stylo à la main, et puis on réfléchit. Et on voit l'heure passer. Il n'y a rien de pire que ça. Et on se dit, mais aujourd'hui, l'heure passe plus vite que d'habitude. Et le Seigneur nous dit, pas de panique, que votre cœur ne se trouble point, ne s'agite point, comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Tu as une espérance, ton espérance est devant toi. Nous sommes en route pour la maison du Père. Cette agitation intérieure, quoique normale, ce n'est pas seulement un conflit dans les pensées, dans les émotions. L'idée ici que Jésus laisse, c'est de ne pas laisser l'angoisse, le stress. Vous allez voir votre médecin, il vous dit, vous êtes stressé. Tout le monde est stressé de nous. Mais bon, c'est quoi le stress? La panique, Jésus dit, ne laissez pas la panique s'installer, vous dominer, parce que tu es fort. Tu es fort en Jésus. C'est vrai ou pas? Ah, vous êtes très convaincant ce matin. Il suffit pas de le dire, il faut le vivre. Il faut le croire. Et Jésus dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que la panique ne s'installe pas parce que tu vas perdre pied. Et une fois qu'on a perdu pied, Satan profite et comme on dit chez nous, il te danse dessus. Mais oui, les amis, la peur peut être quelque chose de très grave, hein? Ça peut être contagieux. Et au début du Covid, pour ne pas revenir dessus, on disait oui, mais jusqu'où ça va aller, et puis les gens meurent, et puis les gens ceci, et puis est-ce que c'est la vérité, et puis est-ce que... Et là, on a installé une sorte de psychose, que les gens ont paniqué à un point que on s'est fait vacciner sans conviction, parce qu'on a peur de la mort. Qui n'a pas peur de la mort? Et certains m'ont dit, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur des 5 dernières minutes qui précèdent la mort. Je ne vais pas souffrir. Mais bon, garde-toi ou gardons-nous d'oublier les oracles de l'Éternel. Et je crois que c'est Viviane qui l'a cité ce matin. Il dit dans Ésaïe 43, versets 1 et 2, « Sois sans crainte. Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas et la flamme ne te consumera pas. C'est une assurance. Tout risque. Tu es à moi. Je t'ai gravé là. En langage courant, on dirait no stress. Pas de panique. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Ce passage a été traduit de différentes manières. Mais Jésus oppose ici le trouble, la panique, l'agitation à la foi. La foi doit être solide, plus que jamais, n'est-ce pas? Même si parfois, il prend un petit peu d'eau et puis on se dit, oui, mais je suis humain. Mais ici, l'exhortation... Et à la confiance, confiez-vous en Dieu, confiez-vous aussi en moi. Vous avez cru en Dieu? Croyez aussi en moi. Ça vous dit rien? Jésus est en train de ouvertement de dire qu'il est logé à la même enseigne que Dieu, qu'il est Dieu, et personne ne l'arrête pour blasphème. Parce que personne n'osait dire que Jésus était Dieu. Et d'ailleurs, on l'a crucifié, une des raisons, on l'a crucifié pour ça. Parce qu'il s'est fait passer pour le Fils de Dieu ou le Fils de Dieu. Il dit implicitement qu'il est de la même substance, de la même essence que Dieu. Et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et d'ailleurs, il dit au verset 6, un peu plus bas, « Je suis le seul chemin vivant et vrai qui peut vous mener au Père. » Il n'a pas dit un chemin, mais le seul chemin. Le seul chemin vivant et vrai. Je suis le seul chemin, la seule vérité, la seule vie pour aller au Père. Et indirectement, il dit, revêtez-vous de mon manteau, sinon vous ne verrez pas la face de Dieu. Aujourd'hui, où tu en es? Est-ce que tu as pris le vrai chemin? Est-ce que tu t'es revêtu de Christ ou de la religion? Ça fait deux choses différentes, hein? Et souvent, nous venons au temple parce que les parents sont là. Et on ne peut pas faire autrement, mais bon. Avec papa, hein, on n'a pas le choix. Hein. Mais bon, le Seigneur Jésus te dit, un jour, ce n'est pas papa qui va entrer pour toi. Chacun devra, dès ici-bas, chercher à entrer en contact avec le Dieu vivant et vrai par Jésus-Christ. Jésus dit ces paroles pour dissiper le doute, dissiper le trouble chez ses disciples. Et Philippe, qui comme nous a du mal à comprendre, dit, mais Seigneur, je comprends que dalle. Tu dis que celui qui t'a vu a vu le Père, pourtant je vois une seule personne et personne n'a jamais vu Dieu. Le Père a été effectivement jusqu'ici inaccessible, mais Jésus dit, je suis celui qui vous est conduit au Père, qui vous a révélé le Père. Et aujourd'hui encore, je me pose la question, tout en venant au temple, tout en chantant des cantiques, tout en lisant la Bible, tout en faisant des prières, avons-nous tout compris? Comprenez ce que je dis? Avons-nous tout compris? Nous ne sommes pas mieux que les disciples, hein, d'antan. Ils sont restés 3 ans avec Jésus à voir des choses. Ils n'en avaient pas compris. La question est, veux-tu entrer dans la présence du Créateur? Je suis le seul chemin qui mène au Père. Veux-tu entrer dans la présence du Créateur? Puisque nous sommes en route pour la maison de Dieu. Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, était un docteur de la loi. Il prêchait, il annonçait l'évangile, enfin, pas l'évangile, la parole. Et Jésus lui dit, mais tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Si aujourd'hui, je ne sais pas si je suis né de nouveau, converti en Christ, être sauvé, je ne peux ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous prenez, si vous mesurez ces paroles. Tu ne peux ni voir, ni entrer. Dieu a fait grâce à Moïse, il a vu, mais il n'est pas entré. Mais quand Jésus te dit, tu ne peux ni voir, ni entrer, ben, rideau. Tu es dehors. Et donc, ma question, est-ce que tu veux voir, est-ce que tu veux entrer? Ou bien tu veux te contenter de cette vie ici-bas? Ne soyons pas agités par les temps que nous vivons. Et Jésus va plus loin, au verset 2. Il dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de Dieu. Beaucoup de demeures. Comprenez bien. Et quelqu'un m'a dit une fois, je n'ai pas besoin d'un palace. Hein. J'ai besoin d'une petite guérite, un vieux truc derrière, là, au fond, là. L'essentiel, c'est d'être dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle. Jésus dit qu'il y a beaucoup de demeures, mais je vais te préparer une place. Ce que je vous dis, dit Jésus, c'est la vérité. Ce ne sont pas des bobards. Sinon, je ne serai pas là. Mais il dit, je vais vous préparer une place. Et vous savez qui c'est qui a profité de l'occasion? Madame Zébédée. Vous ne connaissez pas? D'accord. Elle a profité, elle a pris la balle au bon, elle a dit, Seigneur, mais je veux mes deux fistons là, à droite et à gauche. Puis que tu prépares des places. Mais toujours dans la pensée des disciples et de ceux qui entouraient Jésus, c'est politique. C'est super. Tu seras roi et on sera là, premier second, deuxième second, premier ministre, deuxième ministre à tes côtés. Jésus ne parle pas de ça. Vous savez, imaginez un peu ce qui se passe dans la tête des disciples. Pour eux, c'est une perspective heureuse. Hein? Et ils se disent, on a bien fait de tout quitter pour te suivre. Hein? Deux questions. Est-ce que tu as vraiment tout quitté pour suivre Jésus? Ou bien tu es encore lié en quelque part? Parce que personne ne connaît ta vie, hein. Mais Jésus la connaît. Et deuxième question, si tu as tout quitté pour le suivre, tu suis qui en fait? Jésus de Nazareth? Jésus ton sauveur? Ou bien le sauveur de mes parents? Si le sauveur de tes parents n'est pas forcément ton sauveur. Et jusqu'où tu es prêt à le suivre? Jusqu'où tu es prêt à le suivre? Je vous laisse avec toutes ces questions. Mais Jésus dit, oui, peut-être tu as tout fait de tout quitter, et non, tu n'as pas tout fait de tout quitter, tout bien fait. Non, parce que Jésus ne fait pas allusion à des postes à pouvoir ici-bas. Mais il parle de place dans le royaume de son Père. Nous sommes citoyens du ciel, pas citoyens d'ici-bas. D'accord? Tu as bien fait de tout quitter pour le suivre et vivre éternellement avec lui, mais Jésus s'adresse ce matin à ceux qui ont cru en son nom. Il dit, le Père m'a envoyé, je suis mort pour toi, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as dit, oui Jésus, je crois en toi et je confesse ton nom devant les hommes? Parce qu'il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Hein? Il dit, c'est pareil au même Dieu, le Père et moi. Maintenant, dans la vie de tous les jours, nous aimons choisir toujours les bonnes places, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous rassurer, Lisa et Viviane, vous êtes partis quelque temps, personne n'a pris votre place. Hein? Ah, j'ai observé, hein? Personne n'a pris votre place, vous étiez là. Et personne n'a chanté à ta place. Est-ce que ici, ce matin, quelqu'un a déjà voyagé en première classe en avion? Ah, vous avez de la chance. Alors, je vais préciser ma question dans l'A380. C'est le plus gros avion. C'est un monstre. Vous allez à Roissy, vous voyez la bête devant vous, comme on dit. C'est énorme. C'est de la classe. C'est top. J'ai travaillé là-dedans et je sais ce de quoi je parle à l'époque. Mais c'est du matos, comme on dit chez nous. Alors, vous vous imaginez quand Jésus dit, je vais vous préparer une place. Il va nous préparer un strapontin pour l'éternité. Vous connaissez un strapontin? Un petit bout de planche là qu'on met dans les trains quand il y a trop de monde là. Et puis on te dit, lève-toi, tu gênes. Il y a des boutiques de troc. Vous pensez que Jésus va s'acheter des chaises, des fauteuils d'occasion à prix baissé bas pour ses enfants que nous sommes pour vivre l'éternité? Certains moments, on s'assied sur la chaise et ça fait crier. C'est plus ça. Jésus dit, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jésus, d'ailleurs, il le stipule à son Père dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17. Il dit, Père céleste, je veux. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis ou bien vous avez affaire à un Américain, il dit, I went. Et quand il vous dit ça, c'est pas pour aujourd'hui, hein, c'est pour hier. Il veut ça tout de suite. Je veux. I went. Et Jésus fait comprendre au Père, je veux que tous mes amis là que j'aime, pour qui je donnais ma vie, je veux qu'ils soient avec moi dans mon royaume. Chacun sa place, et je n'aurai pas à dire, Lisa, pousse-toi, c'est ma place. Est-ce que ta place est réservée là-haut? Est-ce que tu es convaincu de ça? Et si ce n'est pas le cas, que dois-tu faire? Où tu en es avec Jésus. Et dire que tu n'as rien à payer, hein. Jésus a déjà payé. Vous savez, quel parent qui n'est jamais reparti le cœur gros après avoir déposé son enfant à la crèche ou à l'école le premier jour de la rentrée et qui a pleuré? J'ai pleuré. On vous voit l'enfant désespéré, on dit, mais c'est pas possible. Tu voulais aller à l'école, maintenant on te marie du cœur. Mais c'est déchirant. Mais comment dire à un enfant qui n'a pas la notion du temps et de l'espace dans lequel il vit, papa ou maman revient tout de suite, ne t'inquiète, ne pleure pas. Jésus nous dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Depuis quand il a dit ça? Depuis combien de temps il a dit, je reviens? Est-ce que je dois calculer le temps ou bien je dois être prêt? Je dois être prêt. La question est, es-tu prêt? J'ai très peu connu une de mes tantes. Elle allait souvent au temple avec son frère qui était mon oncle et sa femme et puis une autre sœur parce qu'elle aimait entendre les cantiques. Mais c'était une moqueuse, elle aimait se moquer des évangéliques. Et il y avait un chant qu'elle aimait particulièrement, que les anciens connaissent ici, c'est « Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt ?» Elle chantait ça tout le temps. Et un jour, qu'elle faisait la vaisselle devant son évier, elle chantait le cantique, elle est tombée et s'est jamais relevée. Tante Frédéric, elle est morte. Et il ne suffit pas de chanter des cantiques. Encore faut-il les vivre. Et il ne suffit pas de dire « Je connais Jésus ». Encore faut-il le connaître réellement. Ce n'est pas là-dedans. C'est ici. 30 centimètres plus bas. Et donc, Jésus dit, je reviendrai. L'attente peut être très longue. Et l'attente la plus longue, c'est quand on voit le médecin partir avec mon mari et puis on se dit, dans combien de temps il va revenir? J'espère. Et j'ai dit à Jonathan cette semaine, lève-toi, prends ton lit, casse-toi chez toi. Et il l'a fait. Hein? Mais le temps entre le feu rouge et le feu vert, on trépine là sur l'accélérateur et puis on a envie de klaxonner l'autre parce qu'il prend trop de temps pour démarrer. Parce qu'on est parti en retard. Quelques secondes peuvent être très longues. Et Jésus nous dit, je reviendrai. Et quand on regarde cette guerre stupide qui a lieu en ce moment en Ukraine, quand on voit l'épidémie du COVID qui joue au yo-yo, on se dit, Seigneur, jusque à quand? Et puis, qu'est-ce qui va venir après? Mais Jésus dit, sois prêt. Il ne suffit pas d'attendre, sois prêt. Il y a un sous-entendu ici dans les propos de Jésus que les disciples n'ont pas tout saisi. Vous savez, quand on n'écoute pas, on n'entend pas. Il dit, je vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père, dans la maison de mon Père. Sous-entendu, je vais préparer votre admission dans la présence de mon Dieu. Me suivez? Jésus est mort pour moi, pour nous, pour quiconque croit en lui. Il a été glorifié, n'est-ce pas? Il a dit, tout est accompli. Il a été glorifié, ça veut dire que son œuvre a été acceptée par le Père. Maintenant, il doit présenter chacun de nous. Admission, vous avez passé un examen, qu'est-ce que vous attendez de voir sur la feuille? Admis. Jésus prépare notre admission à chacun dans la présence du Père. Et si ton nom n'est pas trouvé, tu vas dire quoi, Jésus? Mais j'étais au temple tous les dimanches, je faisais ci, je faisais ça. Il dit, mais je te connais pas. Tu n'as jamais cru en moi, tu n'as jamais confessé mon nom. Vous savez, la religion n'est pas la relation. Vous comprenez ce que je dis? La religion, ce n'est pas la relation. Or, Dieu nous invite à avoir une relation avec lui. Je dois croire que la mission de Jésus était spécifiquement pour moi, pour ma vie, pour mes péchés. Et aujourd'hui, pour beaucoup de sympathisants, cela reste flou parce que qu'est-ce que Dieu demande de plus? Soyons clairs, Jésus reviendra en personne. Il dit, c'est pas un ange hein, qui va vous préparer une place, c'est pas un ange qui reviendra vous chercher, c'est moi. Moi, le Fils de Dieu. Moi qui suis parti. D'ailleurs, il est avantageux pour vous que je parte. Hein. Sinon, je ne reviendrai pas. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, un dernier texte. Vous connaissez ce texte parce que vous l'avez lu plus d'une fois à partir du verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Nous regardons tout ce qui se passe autour de nous et nous paniquons. Et Jésus dit, réjouissez-vous. Nous aimons interpréter les temps, les saisons, et jamais en cette période il y a eu autant de prophètes. Jésus dit, réjouissez-vous parce que je suis à la porte. J'arrive, je viens vous chercher. Fini les tribulations, fini l'agitation, fini toutes ces choses. Et en août, ah, vous avez intérêt à boire du coca maintenant parce que là-haut, il n'y en a pas. Hein? Tout ce que vous voulez boire et manger, c'est maintenant. Parce que Jésus dit, il vient bientôt et la question est, es-tu prêt? Jésus nous laisse ce message de consolation ce matin. Ne vous laissez pas troubler par ce que vous avez à aller traverser comme tempête. Au contraire, réjouissez-vous. Vous savez, autour de nous, beaucoup de chrétiens à travers le monde passent par des tribulations. Et d'ailleurs, on prie pour l'Église persécutée. Ils passent par la case prison avant d'être exécutés. Vous savez, en prison, ce qu'ils font, comme Paul et Silas, ils se réjouissent. Parce que l'Évangile, même en prison, est prêché. Alors, c'est un appel à la fidélité à Dieu et à la fidélité au Fils. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Seras-tu prêt? Ou es-tu déjà prêt? Parce que le bientôt de ce Jésus, quand il dit « je reviens bientôt », c'est brusquement. Soudainement, je serai là. Au son de la trompette. Et quand on dort, on dort. Quand on est agité dans la vie, on est agité, on n'entend rien. Mais le Seigneur nous invite à nous préparer chaque jour de notre vie qui passe. Et chaque jour de notre vie est un jour de grâce. N'est-ce pas? Alors bénissons le Seigneur pour sa parole. Et que votre cœur ne se trouble point.